Écrire pour vous, ça a été une façon de reconquérir cette liberté?
Oh non, j'ai commencé bien avant. Non, c'est quelque chose. Bien sûr, ça aide, mais ça réenferme par ailleurs. Mais bien sûr, c'est l'expression artistique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par là, essentiellement, que dans toute l'histoire du monde, vraiment, je parle de ce qui est extérieur, je ne parle pas de l'intérieur de l'homme. L'homme intérieurement n'a jamais supporté la soumission. Mais il a été le plus souvent dans des situations où il ne pouvait qu'intérioriser cette révolte et ce sentiment d'avoir raison et ce sentiment d'être libre, de n'avoir de compte à rendre à personne. Même pas à ses parents, même pas à ses engendreurs. Et pas à Dieu, et pas à une société, pas au Seigneur, pas aux bourgeois, pas au patron de fabrique, etc. Ou pas aux militaires, pas au roi, voilà. Mais à l'extérieur, si je puis dire, si on peut considérer que l'art est une manifestation extérieure de l'homme, c'est vrai que c'est dans l'art qu'à tout moment de l'histoire, l'homme a manifesté sa liberté. Et c'est pour ça que l'art est scandaleux aussi, parce qu'il manifeste, non pas, c'est toutes ces histoires de censure, c'est bien d'autres choses. Je crois que la liberté de l'homme peut se manifester en art par des productions tout à fait apaisées, tout à fait calmes, qui apparemment ne mettent pas en question l'ordre du monde. Et pourtant, c'est par là, beaucoup ne s'y trompent pas, beaucoup de politiques et autres ne s'y trompent pas. Et l'artiste le sait, lui, qui fait un pas à ce moment-là, une démarche irrémédiable. Je dis bien irrémédiable. Je dirais même que souvent, les grands politiques ou les princes, les commanditaires des œuvres, picturales ou autres, se sont servis à leur insu. Mais les artistes le savaient peut-être. Des artistes, pour que les artistes concentrent en eux toute la liberté refusée à tout un peuple, à une ville, dans le cas d'Italie par exemple, hein, ou à tout un peuple comme en France ou ailleurs, pour tout de même libérer un peu de ça. Je pense que les princes, les commanditaires des œuvres ont malgré tout pensé à ça, je pense, et les plus grands.
L'œuvre est toujours violente. Une liberté, c'est quelque chose qui n'est pas donné, c'est pas quelque chose qui se prend. Est-ce que l'œuvre a toujours un caractère violent, fondamentalement?
Oui, parce que cette liberté se prend parce que l'acte de créer, déjà, est un acte libre. Car on peut considérer que c'est un... si on est du point de vue de la foi, par exemple, ou de la croyance, c'est un acte qui double l'acte du créateur, en quelque sorte. C'est un acte créateur. Et on peut même imaginer les affres du créateur, si l'on connaît bien les affres du créateur avec un petit C.
J'irais boule, l'orbite empoussiérée, ta poitrine tremblée, le comptoir caisse, ta mâchoire hack, mes cheveux chauds, d'eau, l'or, bordel, banlieue, France, de hanchier, gâte et son, un kilo chantant, cac banquet céleste, qu'à ta face mâchurée, de chair en gras, le relent tueur en refoufille salame dans sa taille, le mouchia Satan rentre et s'assoupire dedans tes narines. Père ses gardes, calilo, brûler ses restes vivants, dessus ses goulots éclatés, ma chérie, sa joue rose d'oreiller brodé d'or, quelle poubelle fourchée mon aîné d'avant mes trois lits de boue, feu, poussière, grincement de dents de lame, froissement de feuillets saints, combien de litres de lait mes songes nous portés. Sac, boyau, marmite vide, la sécher, sortir de cabane de ma mère repudiée, de leur fricot de nuit, ses coutumiers, le repas chier dans sa bouche, cracher dans ma bouche, la bouite menée au pont, à la table d'embauche, notre délice de mes entrailles, son rouge aux hommes, mon front, 77 refus d'embauche, le dernier, le propriétaire des charniers, vers d'entre ses orteils, masque l'oreille. Les donnières couilles, notre diar embauchée, leur trouver l'odnière tronga, passe des testicules, les acheminées vivantes des foyers. Bat ta frontaille, fléchir le genou, dieu des six jours, embauche ta créature, m'endormir le front roc, poisson, volaille, crustacé, épi, baie, feuille, sortir leur empreinte en pierre, broche, marmite, nappe, nourrir mes ptios, mes épouses, renourrir mes frères, sœurs, pères, mères, leurs pères, mères, leur changer chair, os, sang, reprocréer leur descendance, désintégrer, fracas, lueur, relent, me veiller, non, quel groupe me brouer de ma semence au ventre, la face, ma face, la bouche mâchée de cadelan peigne, tire de l'égout foulé aux mâchoires blanches, quel baiser ma paume, la pesée de son ventre, charogne portée, me retirer du monde, non-né, cerveau de Dieu, me pense point, non, qu'un rastant de langue inconnue, les restes de son chien, maître me fixé, rastant de buisson crotté, poignée de sous, canicule, rastant de mode de vagin, y reprendre la monte. À mesure le songe, ma semence s'achève en putain, à mesure mes yeux rouvrent au roc, qu'à le chantier sous éclair, spot jaune, ma face la salive comme craille les effectifs pleins, tueur, payeur, égorgier sous table de paye, sac de liasse tiré son dragnarné de couper en billets, sous au père, son aîné rembondir, reste reconnu, quel outil sa promotion fraîche, lui trancher le cœur. Mon dragnard, dragnard, un être, ton cordon plus gros que te, ma vie, ta jambe, mon petit doigt plus gros, les râles barcés au taudis, ma chérie, le biberon, sa joue rose, fouiller sa paume aînée, de chire de feuilles de santé, photos, fleurs de noces, de mes deux autres, ma nuque redressée, courir l'étreindre, ses yeux me cligner, mes paumes sans salaire, avant ton sommeil, y quitter ton père terrestre, amour. Cac. Tertre nu, rumeur humaine, arrêtée, Dieu me parler dans l'oreille, remuer mes lèvres, lui répondre, tourbillon lassé des mots dans le sable, entre mes pieds, le raidillon pavé, quatre misères, le poing moignon, aux dents le poisson, happé, le rebut d'étal, les commis, courir tranchier son poing droit, me d'entre, bondir, arracher le poisson aux mâchoires, affamé, volé, voleur du voleur impuni, nourris-toi du sang de ta main droite, ton poing coupé, pavé, la ramener à ta mâchoire brisée, la vendre, retire, à plus misère que te, père, mère, la paume, les cinq doigts, les cinq gones. Ah, Dieu me resplendit ta création, avant ta créature marcher à bordel.
Extrait de Progéniture, lu par l'auteur au Centre Georges Pompidou le 5 janvier 2000.
Pour produire le moindre petit verset, même maintenant, tout à l'heure, si je veux, je ne peux pas, puisque j'écris en verset donc, depuis très longtemps, en rythme, donc je ne peux pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis obligé de penser à une scène. Donc d'avoir devant les yeux, comme je disais hier, dans les yeux, dans le cerveau, je ne sais pas très bien, une scène pour pouvoir mettre en marche un verset, la forme artistique choisie. Je ne peux pas rythmer sur du non-vu, du non-pensé. C'est impossible. Non, mais c'est très important, ça. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un effort de vision. Il faut qu'une vision, qu'une scène, donc que des figures soient pensées, voulues, installées dans un lieu donné. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut prendre très longtemps, plusieurs jours, ou alors si je suis pressé, ça peut prendre au moins une heure. Alors, est-ce ça la méditation? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Une heure, il faut qu'il y ait, que j'ai devant les yeux une scène pour y intervenir rythmiquement. Intervenir, si je puis dire, littérairement. Voilà. Littératurellement. Artistiquement. Voilà.
Ces scènes dont vous parliez tout à l'heure, qui sont très multiples dans Progéniture, en même temps, vous les interrompez, c'est-à-dire qu'elles sont non résolues. Vous avez supprimé tout ce qui pouvait conclure ou,
non, j'ai pas supprimé,
ou résoudre.
Je n'ai pas supprimé. J'ai...
Et vous les suspendez.
Je suspends, oui. Mais alors, j'ai donné des raisons très précises là-dessus.
Est-ce que cela vous coûte de ne pas achever? C'est-à-dire de suspendre à la fois donc l'action, les
mais
figures et la lecture.
Tout coûte. Par exemple, exercer sa liberté, ça coûte. Il y a des milliers de moments dans la journée où je préférerais être quelqu'un d'absolument normal, sans pouvoir d'expression.
Sans liberté?
Non, mais sans pouvoir d'expression aucun. Avec un bon métier. Et donc, une famille, des enfants, tout, voilà. Je préfère vraiment ça. Pas tout le temps. Mais parce que rien ne s'achève dans la vie. Rien ne s'achève. Et que achever, d'abord j'achève, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Et qui achève du reste? Quand on relit les très grands textes, on s'aperçoit. J'en ai beaucoup lu l'an dernier, avant de me remettre à la grande correction finale du texte, de cette œuvre, correction dans laquelle j'ai beaucoup changé, j'ai pratiquement tout réécrit. J'ai relu, pas tout, mais comme ça, partie, ou tout ou partie de certains grands textes, pour en quelque sorte me donner ou bien alors m'épouvanter, et voir si je résistais, ou bien comme chose tutélaire, voilà. Pour pouvoir me redonner de la force pour ce que je prévoyais comme épreuve, comme une grosse épreuve dont je suis sorti. Et donc je me suis aperçu de cette chose, que la grande littérature était une littérature, la plupart du temps, beaucoup plus inachevée, beaucoup plus désinvolte qu'on ne le dit. Mais il ne faut pas le dire, puisque ça fait partie des choses dont la civilisation est tellement fière. Ça n'empêche pas que ces œuvres soient parfaites, dans leur genre. Hein? Mais quelle désinvolture quand même. Quelle liberté, quelle désinvolture aussi. La vie elle-même ne termine rien.
Extrait d'une allocution de Gandhi, 20 janvier
1948, à Delhi. वो लेकिन ग्वालियर से वो तार नहीं तार रतलाम से आया है मुसलमानों का है उसमें सही क्या है झूठ क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ वो लिखते हैं कि हमारे वहाँ ग्वालियर स्टेट में कोई देहात है कुछ भी है वहाँ एक उस देहात में हमने तो मजबूर हो गए तो हिंदुओं को दे तो दिया लेकिन देने के बाद हमको तो मारना शुरू कर दिया एक दो आदमी मर भी गए हमारा जो जो अनाज वगैरह था वो लूट लिया मकानों को जला दिया ये दिखते हैं उसकी तारीख हो ठीक 15 और 16 तारीख का लिखते हैं उस रोज तो उस रोज को मेरा फाका चलता था फाका की उसको क्या दरकार हो सकती है लेकिन माना कि ये सही है तो मैं कहूँगा वहाँ के ग्वालियर के हिंदुओं को और सबको कि ऐसा अगर होता है तो भी यहाँ दिल्ली का जो बन गया है उसको आप वो बिगाड़ने वाले हैं और वो कहते हैं यहाँ कि जो यहाँ हुकूमत चलाने वाले हैं वो भी इसमें कोई हमको इमदाद नहीं देते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा हिंदुस्तान के एक कोने में भी हो तो मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमत को शर्मिंदा होना है और और हमको भी शर्मिंदा होना है, इसलिए मेरी उम्मीद तो ये रहेगी कि उसको वो निकाल दें। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। सुना मैंने, आज सुना।
अखबार तो मेरे तो कहीं भी चलता है।
ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। तो क्या, सुनो 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 सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। तो मैंने ये सुना पढ़ा कि काठियावाड़ के, काठियावाड़ तो मैं तो अभी ऐसा न करे बहनों, सब शांत हो जाइए। तो मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा कि काठियावाड़ में जितने राजा लोग हैं और काफी है।
Cette fin de siècle est extrêmement troublée politiquement. De la chute de l'Empire communiste à la montée des intégrismes ou des nationalismes. Parmi tous ces événements, Pierre Guyotat, lesquels vous ont le plus touché ou inquiété?
Il est bien évident qu'il y a deux choses inquiétantes maintenant sur la surface européenne, enfin dite européenne. C'est évidemment le délitement de l'Empire russe, dont il ne faut pas oublier que la plus grande partie, et même la totalité, date des tsars quand même. L'Empire, c'est pas l'Empire communiste. Non. Si, on peut parler d'Empire communiste si on ajoute à l'Empire russe, déjà parfaitement constitué en 1917, 1915, en tout cas, enfin avant la guerre de 14, si on ajoute effectivement l'empire satellitaire, qui n'est plus maintenant. Donc parler de l'empire communiste, à ce moment-là, on parle de la Russie et de l'autodestruction des systèmes satellitaires. Mais le problème qui est réglé maintenant, les Russes ont deux choses terrifiantes à régler, à savoir, effectivement, les séquelles, enfin, le reste, les séquelles, non. Le soviétisme à l'intérieur et l'empire russe, c'est-à-dire tsariste, à l'extérieur de ce qui était autrefois le grand-duché de Moscovie, d'une certaine façon. Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je suis tout gosse et que j'ai eu l'histoire, que cet empire russe était une dinguerie absolue. Une dinguerie. C'est une excroissance monstrueuse de la géographie politique et que ça ne durera pas. Ça cessera. Et c'est en train de cesser, du reste. Car même si les Russes sont vainqueurs, entre guillemets, en Tchétchénie, ils perdront la Tchétchénie et ils perdront tout le reste. Et ils en perdront bien plus. Les Russes ont tout de même perdu l'Ukraine. Il ne faut quand même pas l'oublier. L'Ukraine qui a été considérée pendant très longtemps presque comme un des berceaux de la civilisation russe. L'Ukraine est indépendante, maintenant. Donc là, c'est extrêmement inquiétant. Comment cette décolonisation, comment la disparition, le délitement d'une colonisation très ancienne, en tout cas, oui, qui date, disons, des deux ou trois derniers siècles, va se faire. Et qu'est-ce que va devenir la Russie elle-même? La Russie, l'idée russe, qu'est-ce qu'elle va devenir?
Qui est donc la montée du nationalisme.
Oui, enfin, appelons-le comme on veut, mais enfin, c'est plus inquiétant qu'on ne le dit. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas trouvé tout de suite qu'on n'ait pas eu la possibilité d'empêcher cette union. Cette union-là, l'union de la droite dite traditionnelle, elle n'est pas si traditionnelle que ça, puisqu'elle s'allie avec le diable, j'en sais rien, enfin, un diable souriant.
Mais qui aurait dû l'empêcher ?
Voilà. Ah, mais il y a peut-être des lois organiques de... Oui, mais si l'Europe ne peut pas l'empêcher, c'est qu'il manque des lois dans cette Europe politique.
Qui est en train de se former, mais qui n'a peut-être pas encore les moyens de faire.
Qui a tout de même une armature très solide. Et il semblerait que cette cas n'ait pas été prévu. S'il a été prévu, bien entendu, mais il n'a pas été réglementé avec assez de force. Parce que maintenant, c'est trop tard, maintenant. L'union est faite. Je trouve du reste très étonnant qu'on tombe beaucoup plus sur Haider que sur l'autre, qui a accepté un pareil... Haider, c'est Haider, il ne cache pas ce qu'il est. L'autre est beaucoup plus... C'est l'autre qui doit être l'objet de la détestation générale. Comment il s'appelle, je ne sais pas très bien. Enfin, l'actuel chancelier, dit de droite traditionnelle. Ce n'est plus de droite traditionnelle.
Il faudrait voir s'il avait les moyens, lui, de refuser cette alliance.
Mais il y a des partis, mais il y a un parti de gauche et un parti de droite. Ils pouvaient parfaitement s'allier. Ça s'est fait dans d'autres endroits.
Mais vous avez peur que cette...
Non, mais c'est très inquiétant. Ça veut dire que l'Europe est en train de se...
Vous avez peur d'une propagation?
Peut-être aussi. Et ça veut dire que tout de même dans un des pays importants de l'Europe, et non des moindres, il est peut-être petit maintenant par sa population et par sa superficie, mais il est très important économiquement et il est très important aussi symboliquement. Il ne faut pas oublier aussi, il y a dans le traitement de cette affaire autrichienne quelque chose de très révoltant aussi. C'est qu'on oublie tout ce que l'Autriche, en tant qu'Autriche quand même, dans les limites actuelles de l'Autriche, a pu apporter à la civilisation occidentale. Tout de même, les gens s'y sont trouvés bien, pas trop mal, pendant pas mal de siècles, dans cette Autriche-là. À certains moments, ils se trouvent, les Autrichiens et les Hongrois, et tout le monde, et les Bosniaques, et même les Italiens du Nord, s'y trouvaient peut-être bien mieux dans cet empire qui était, je crois, la prison des peuples, on appelait ça la prison des peuples, ou c'est l'empire turc qu'on appelait la prison des peuples, je ne me souviens plus. Que dans n'importe quel pays d'Europe continentale, à commencer par la France, avec des réformes, avec des lois sociales importantes qui dataient de longtemps, une certaine façon de vivre plus urbaine, plus...
Une grande culture.
Ah non, mais une grande culture, mais aussi, pour les peuples, une plus grande considération aussi, je pense. Dans certains lieux, en tout cas, de l'Empire austro-hongrois. C'est évident. Les gens jouissaient d'une protection qui n'existait peut-être pas dans d'autres grands pays de l'Europe. Mais il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Parce qu'on oublie aussi, on dit toujours, bien entendu, l'Autriche, c'est Hitler. C'est Hitler, c'est le confin de l'Autriche, c'est le confin de l'Autriche. Mais on oublie de dire qu'à 200 km, je crois, quelques 200 km de Braunau-sur-Inn, où est né Hitler. C'est Salzbourg, la ville natale de Mozart, quand même. Hein? Donc tout ça est absurde. Et moi, je ne comprends pas qu'on ait... Quand Jacques Chirac parle de rupture de contrat, et si rupture de contrat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va jusqu'au bout. L'Autriche est dans un état de rupture de contrat. Mais la rupture de contrat, on exclut. On exclut la partie qui ne respecte pas le contrat. Or, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand a refusé, comme je l'ai entendu, je crois, un proviseur de lycée qui a refusé des étudiants autrichiens, des lycéens autrichiens, qui devaient venir faire un voyage d'études en France, c'est totalement absurde. Alors ça, et la Russie, c'est tout de même deux motifs de grande inquiétude. Sans compter tout le reste. Il s'est passé des choses en Espagne très graves quand même. cette espèce de grande ratonnade dans le nord de l'Andalousie, le nord est de l'Andalousie. C'est une chose importante, ça. C'est la première fois depuis bien longtemps. Donc rien n'est immuable, rien n'est stable. Mais c'est aussi la force de l'Europe, c'est aussi la beauté de l'Europe d'être ingérable aussi, d'une certaine façon peut-être. Disons difficilement gouvernable et unifiable. Regarde très souvent la planisphère en relief pour voir s'il n'y a pas une certaine coïncidence entre ce que je vois en relief, bon, relief plat, mais enfin relief géologique, et ce que je vois, moi, d'une faille, hein, la faille tout simplement christiano-islamique qui traverse depuis la Méditerranée jusque très loin, en Asie quand même.
Vous mettriez l'Iran et l'Algérie, par exemple, sur le long de cette ligne.
Ça commence là, ça commence sur les bords de la Méditerranée, et ça se poursuit.
Et comment placer, par exemple, le problème de la poussée religieuse, la poussée de fièvre religieuse qui a enflammé les pays comme l'Algérie ou l'Iran?
Oui, mais ça enflamme quoi dans ces pays? Ça enflamme qui dans ces pays? Il faut savoir. En Algérie, par exemple, l'Algérie n'a jamais été aussi proche, me semble-t-il, d'une acceptation de la laïcité. Hein? Et en même temps, elle est soumise à cette horrible pression théocratique. Quand je dis faille, ça veut dire que à l'intérieur même de chacun des pays riverains de cette faille, il pourra y avoir des guerres civiles. Entre laïcs et religieux. Maintenant, moi je comprends très bien aussi la revendication islamique. Elle vient pour moi un peu tard quand même. Disons, par rapport à la date des indépendances. Je pense qu'elle aurait dû commencer avant. On en serait débarrassé maintenant. Mais c'est une revendication culturelle, comme on dit, identitaire aujourd'hui, comme on dit, parfaitement cohérente. C'est parfaitement normal. On oublie de dire qu'en Algérie, par exemple, la culture algérienne, ce qui a été, en Algérie surtout, la culture, même dégradée, hein, de l'Algérie de 1830, dégradée, une culture... la culture de beaucoup de pays de l'Empire ottoman de l'époque. C'est-à-dire tout de même quelque chose d'un petit peu laisser l'abandon d'un petit peu nonchalant.
Un petit peu déculturé.
Et un peu délétère quand même, un peu exotique quand même, hein, réduit bon, à l'exotisme. Cette culture-là, et surtout la foi des gens, a été tout de même opprimée, a été pour une bonne part détruite. Moi, c'est l'idée que je me suis fait de la conquête progressive de l'Algérie. Il a fallu du temps pour conquérir l'Algérie. On oublie ça aussi. Il s'est produit un peu en Algérie ce que Mustafa Kemal a voulu faire en Turquie. Et Mustafa Kemal était turc quand même. Supprimer les signes extérieurs de la religion abhorrée, de la religion détestée, parce que archaïque et archaïsante. Et archaïfiante, si je peux dire, aussi. Simplement, Atatürk était turc, c'était son propre pays. Et il n'a pas réussi. Mais nous, occidentaux, Roumi, chrétiens, romains, nous l'avons imposé à un peuple qui n'était pas de notre civilisation. Je pense que la question coloniale est une question qu'il faut vraiment revoir attentivement. Et là, il y aura aussi, je pense, des révisions encore plus déchirantes que celles qu'on a pu faire jusqu'aujourd'hui. Il faut aussi parler de ce qu'on appelle le modèle occidental. Il y a toujours cette éternelle question, est-ce qu'il faut considérer que notre modèle, puisque c'est un modèle démocratique, d'état de droit, nous le décidons ainsi, est un modèle universel. C'est pas nouveau dans l'histoire, ça. C'est pas nouveau. Que le meilleur de ce qu'on ait pu trouver n'est pas forcément à universaliser. Est-ce que c'est si profond que ça, ce qui est universalisable, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Par exemple, je pense que l'exemple du Christ est un exemple qui est bien plus universel, fiable que l'exemple de la démocratie à l'anglaise ou à la française. Parce que l'exemple christique, c'est un exemple à la fois du profond, du haut, du bas, enfin c'est... Voilà, on touche là à la notion de grandeur humaine. C'est ce qui touche universellement les êtres humains, c'est que tous les êtres humains ont envie d'être autre chose qu'ils sont, c'est évident. Sinon, il n'y aurait pas d'art, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait rien du tout. Si l'être humain ne voulait pas être autre chose, ne désirait pas quotidiennement, dans ses rêves nocturnes et dans ses rêves diurnes, depuis le début de l'humanisation, disons, du corps, du primate ou du singe, s'il ne désirait pas être autre chose, il n'y aurait aucune production sur la Terre. Sur les lieux de passage ou d'habitation des humains. Il n'y aurait rien. Donc vraiment, l'exemple christique, et bien d'autres, hein, Bouddha, par exemple, ce sont des fictions, des événements, enfin des fictions qui touchent ça.
C'est ça. Mais cette idée est elle-même aussi prêtée à des excès.
Non, mais bien entendu. Mais oui, mais de toute façon, l'homme, c'est ça. Je dis dans l'explication que toute grande pensée fait du sang. C'est vrai, dans l'histoire, c'est comme ça.